Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale pour le dernier numéro de ce mois de mai. Je vous le disais la semaine passée, la plupart des saisons de concerts sont terminées ou approchent de leur fin, comme celle des grands interprètes ou de l'Orchestre National du Capitole. Après la très belle production de Péléas et Mélisande, dont la dernière représentation a eu lieu dimanche, il restera Eugène Onéguine à voir à l'Opéra National du Capitole fin juin. À partir de maintenant, c'est donc la période des festivals qui se profile. Lors de notre précédent numéro, nous avons présenté la 9e édition de Classique à Or, qui se tient cette année du 20 juillet au 9 août. Beaucoup plus proche, puisqu'elle a lieu ce week-end, la 16e édition de Passe ton bac d'abord, avec une programmation sous-titrée « Un nouveau souffle » que va nous présenter Michel Brun, le fondateur et directeur artistique du festival. Michel est notre invité d'honneur aujourd'hui. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, est présent aussi, toujours fidèle au poste. Et c'est avec Serge que nous allons tout de suite revenir sur l'actualité musicale de la semaine dernière. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue à Michel Brun que je suis très heureux de retrouver dans le studio de Radio Présence. Nous reviendrons la semaine prochaine sur la très réussie production de Péléas et Mélisande au Capitole. Mais en ce qui concerne cette émission, nous allons d'abord nous intéresser au dernier concert en date des grands interprètes donné mardi 21 mai par le Scottish Chamber Orchestra sous la direction de Maxime Emelianichev. Il y avait également la violoniste Alina Ibrahimova en soliste invitée. Deux musiciens russes donc, mais c'était l'Écosse qui était à l'honneur ce soir-là, Serge.
Oui, en effet, et donc avec deux œuvres de Mendelssohn, on connaît la passion de Mendelssohn pour l'Écosse, avec d'abord l'ouverture Les Hébrides, et puis la troisième symphonie qui est sous-titrée justement Écossaise. Mais entre les deux, la grande sensation, on peut dire, c'était le concerto pour violon de Beethoven, dans une version dont je vais parler dans un petit instant, très particulière et très passionnante. Alors, cet orchestre est déjà venu à Toulouse, c'était en 2017, la dernière fois, et là, il revient avec son nouveau chef principal depuis 2019, tout de même, Maxime Emelianichev, qui l'a transformé, je dois dire. En effet, il a adopté un instrumentarium d'époque, qui correspond aux œuvres qu'il dirige, et le style en même temps de l'époque. En particulier, on remarque à l'orchestre des instruments avant, dits anciens ou copies d'anciens, avec en particulier les flûtes en bois, les cors naturels, si délicats comme jeu, et puis les trompettes naturelles, les timbales en peau. Enfin, vraiment, c'est de l'interprétation que l'on qualifie d'historiquement informée, qui était ce soir-là à l'œuvre à la Halle aux Grains. Alors, l'ouverture Les Hébrides, on a eu tout de suite cette finesse expressive, cette poésie, et en même temps cette passion, avec une transparence dans l'orchestre. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de l'utilisation des instruments anciens, avec vraiment un relief et une transparence magnifique. Ensuite est arrivée Alina Ibrahimova, donc, qui était la soliste de l'unique concerto de Beethoven. Et là aussi, son interprétation se distingue radicalement de tout ce qu'on a pu entendre jusque-là. On a l'impression qu'il s'agit d'un retour aux sources et que cette vision est plus chambriste que symphonique. Alors l'orchestre comprend à peu près 35 musiciens, donc c'est un orchestre qu'on qualifie quelquefois de Mozart. La violoniste joue avec peu de vibrato, et alors elle a fait deux choses incroyables. D'une part, avant l'entrée du soliste dans le premier mouvement, elle s'intègre au pupitre des premiers violons, et elle joue avec les pupitres de premier violon, et elle fait ça pendant tout le temps de l'exécution. Et puis ensuite, c'est quand on arrive à la cadence du premier mouvement que l'on tombe de sa chaise, en quelque sorte. Puisque c'est une cadence complètement déchaînée. Alors, il faut se rappeler que Beethoven n'a pas écrit les cadences pour ce concerto pour violon. Et ce que l'on entend le plus souvent, ce sont celles de Fritz Kreisler, ce sont les plus courantes. Par contre, Beethoven a transcrit ce concerto pour violon, il l'a transcrit pour piano, et donc qu'on qualifie souvent de sixième concerto pour piano de Beethoven, et là il a écrit les cadences. Eh bien, Alina Ibrahimova a converti au violon les cadences pour piano écrites par Beethoven, et c'est complètement ahurissant. Hein. Donc, c'était d'une grande beauté pendant toute l'exécution. En particulier, il y a une cadence qui sert d'enchaînement entre le deuxième et le troisième mouvement que l'on n'entendait jamais, que là, on a vraiment apprécié. Donc, très, très beau, cette interprétation qui a eu un grand, grand succès. Et elle n'a pas joué de bis, malgré les sollicitations de l'orchestre. Elle n'a pas joué de bis. Mais c'est l'orchestre qui a joué un bis, puisqu'il exécutait ensuite la symphonie écossaise, donc la troisième de Mendelssohn, avec une transparence du tissu orchestral, alors qui confère une sorte de lisibilité accrue aux multiples solos qu'il y a dans cette symphonie. Solos de bois, flûte, hautbois, basson. C'était vraiment très intéressant, avec un premier mouvement un peu tempétueux, hein, tel que le dirige Maxime Emilianichev, et puis un beau chant lyrique dans l'adagio, et puis un allegro vivacissimo final, alors, qui alterne quand même la vivacité et la tendresse. Donc l'ovation a été très enthousiaste de la part du public, et l'orchestre et son chef ont offert un cadeau supplémentaire. Il s'agissait là, encore une fois, d'une relation avec l'Écosse, puisqu'il s'agissait de l'harmonisation récente d'un folk song traditionnel écossais. Et là, alors ça c'est intéressant, les cuivres ont repris leurs instruments modernes. Donc voilà des musiciens universels qui savent s'adapter aux instruments qu'ils pratiquent. Donc c'était vraiment un très beau moment que ce concert.
Les Hébrides, l'ouverture en si mineur composée par Félix Mendelssohn, est une très belle œuvre, très évocatrice pour ceux qui connaissent ce pays splendide qu'est l'Écosse. Voici une version enregistrée il y a quelques années par le Scottish Chamber Orchestra sous la direction d'un autre chef régulièrement invité à Toulouse comme l'est Maxime Emelianichev. Là, il s'agit de Joseph Svensson, l'Américain. Les Hébrides, l'ouverture composée par Félix Mendelssohn dans la version enregistrée il y a 3 ou 4 ans par le Scottish Chamber Orchestra, sous la direction de Joseph Svensson. Le prochain et dernier concert de la saison 23-24 des grands interprètes a lieu ce mercredi 29 mai à 20h à la Lograin. Il est donné par l'Orchestre National de France et le pianiste Alexandre Kantorov. Nous allons y revenir en fin d'émission. Samedi dernier, le 25 mai, et c'était encore à la Lograin, l'Orchestre National du Capitole était lui aussi en concert. Là, ce n'était pas l'Écosse, mais plutôt l'Allemagne qui était à l'honneur à travers les deux musiciennes invitées ce soir-là, la chef Anja Billmeier et la violoniste Isabelle Faust, qui a joué l'unique concerto pour violon composé par Robert Schumann. Il y avait aussi au programme la symphonie numéro 1 de Brahms, Seul intrus dans cette soirée très germanique, la compositrice française Lily Boulanger. Il faut dire que le concert sous-titré « Fleurs de printemps » était également placé sous le signe de la femme, Serge.
Ah, absolument, hein. Donc une chef, comme on dit maintenant, pour diriger l'orchestre, une violoniste, grande violoniste que l'on connaît, Isabelle Faust, mais qui n'était jamais venue. C'était là sa première venue à Toulouse, donc on était très heureux de l'accueillir. Et puis, la chef en question, c'est donc Anja Bielmeier, et elle est chef principale du Residency Orchestra de La Haye. Voilà où elle est basée, en quelque sorte. Et donc, le concert s'est ouvert avec cette œuvre sous-titré d'un matin de printemps, c'est tout à fait en phase avec le titre du concert, et donc c'est une œuvre composée par Lily Boulanger, donc la petite sœur de la grande Nadia, qui est morte en 1918, elle n'avait que 25 ans. Alors c'est une œuvre qui a connu d'abord une version pour trio avec piano, pour flûte et violon, et puis en janvier 18, l'année de sa mort, Lily Boulanger l'a transcrite pour orchestre, et donc là, on y a eu droit avec la direction très dynamique d'Anja Bielmeier, qui a trouvé immédiatement ses marques dans cette partition, quand même avec des accents typiques de cette musique française,
oui, très colorée,
si bien à notre orchestre.
Oui,
hein. Donc c'était vraiment très beau. Ensuite, Isabelle Faust était donc la soliste de l'unique concerto pour violon de Robert Schumann, un concerto très rarement donné, qui n'était pas très aimé, en particulier même de Clara, qu'il avait caché en quelque sorte, puisque la partition n'a été retrouvée qu'en 1932, grâce à une intervention prétendue de l'esprit de Schumann, qui a parlé à une violoniste qui, soi-disant, a découvert cette partition. Bon, donc, c'est une partition particulière, alors qui ne recherche pas d'effets virtuoses particuliers, qui, pour ma part, n'est pas ce que Schumann a composé de mieux, hein, de plus inventif. Il y a pas mal de répétitions. Mais tout de même, dès les premières mesures du premier mouvement, là, la sonorité lumineuse d'Isabelle Faust a fait merveille. Hein. Là, vraiment, c'est de toute beauté. La finesse avec laquelle elle interprète l'adagio et enchaîne sur cette danse finale, bon, c'est vraiment très beau. Donc, elle a eu un grand succès, mérité, et elle a joué, elle, un bis, cette fois. Alors, un bis d'une pièce que, pour ma part, je ne connaissais pas du tout, d'un compositeur italien établi à Londres qui s'appelle Nicolas Matteis, un compositeur disparu en 1714, avec une œuvre pleine de souplesse et de nuances, dans laquelle la violoniste fait encore merveille. Et enfin, la seconde partie du concert était, elle, consacré intégralement à la première symphonie de Brahms, marquée par l'héritage de Beethoven, évidemment, puisqu'on sait que Brahms ne s'est mis à composer des symphonies que très tardivement, il avait plus de 40 ans, et donc il s'est lancé dans l'écriture de sa première symphonie, qui a été surnommée la 10e symphonie de Beethoven, d'ailleurs, donc c'était vraiment dans la lignée du grand compositeur. Alors, sous l'impulsion de la chef, Anja Bielmeier, elle a déclenché une véritable tempête au cours du premier mouvement, avec une belle élégie de l'andante, un final en forme de psychodrame en quelque sorte, et puis le final avec cette arrivée de l'hymne irrésistible qui ressemble évidemment au thème final de la 9e de Beethoven, qu'elle a dirigé avec beaucoup d'énergie. Vraiment un grand moment, avec notamment de beaux solos des musiciens que l'on connaît bien, en particulier le hautboïste, la flûtiste, le clarinettiste, le cor, sans oublier le violon virtuose de Jaewon Kim, qui est vraiment une excellente musicienne et qui est la super soliste, en alternance avec Christy Giesi, de cet orchestre du Capitole. Alors la chef, elle a remercié chaleureusement chaque musicien, et en particulier une altiste qui s'appelle Isabelle Mention, et qui arrête donc sa participation avec l'orchestre en vue d'une proche retraite, j'imagine. Elle a été d'une part chaleureusement embrassée par la chef, et puis elle a reçu, outre le traditionnel bouquet de fleurs, une sérénade en guise de revoir de tout son pupitre d'alto. C'était vraiment émouvant et très beau que de terminer ce concert par cet événement.
Alors, sérénade dont l'arrangement avait été réalisé, je crois, par Gilles Appareilly, qui est donc un collègue altiste, exact, d'Isabelle Mention, Zaza pour les intimes, musicienne unanimement appréciée, oui, à l'orchestre. Et alors, ce n'était pas son dernier concert avec l'orchestre, c'était son dernier concert à la Halle aux Grains. D'accord. Elle va quand même poursuivre, la tournée cet été. Et puis après, elle va sonner l'heure de la retraite. Oui. Mais bon, elle restera encore très active, notamment avec le Quatuor, qu'elle a formé, le Quatuor Cordes et Âmes.
Voilà.
Donc on sera heureux de la recroiser, Isabelle Mention, que l'on salue et que l'on embrasse. Et Isabelle Faust, vous avez vu, Serge, elle avait une robe tout à fait adaptée au thème de la soirée, une magnifique robe très colorée à fleurs.
Ah oui, c'était le printemps, à la fois visuellement et auditivement.
On ne l'a pas vraiment actuellement, quoi qu'il commence à faire un peu meilleur, là, mais on ne peut pas dire que le mois de mai était particulièrement printanier cette année.
Non.
On va entendre le son superbe d'Isabelle Faust en la réécoutant dans le bis qu'elle a joué samedi à la Halle aux Grains. C'était donc la fantaisie pour violon seul en la mineur à la Fantasia du compositeur italien Nicola Matteis. La fantaisie pour violon seul en la mineur à la Fantasia de Nicola Matteis, joué par Isabelle Faust. C'était le bis que la violoniste allemande a donné lors de son concert avec l'Orchestre National du Capitole, samedi dernier à la Halle aux Grains. Fin de cette première partie d'émission, petite virgule musicale avant de retrouver Serge Chosy et Michel Brun, notre invité d'honneur, pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, c'est d'abord et surtout la 16e édition de Passe ton bac d'abord qui se tient à Toulouse. C'est 31 mai, 1er et 2 juin, un week-end de concerts et propositions en tout genre autour de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, selon la formule maintenant bien éprouvée du festival, avec cette année ce sous-titre « Un nouveau souffle » qui mérite quelques explications de votre part, Michel Brun. Quel est donc ce nouveau souffle qui gonfle les voiles du navire Passe ton bac ?
Alors, ce titre, il a un double sens pour nous. Il a un premier sens, on va dire, peut-être un petit peu plus interne à l'équipe. Mais en même temps, comme j'ai toujours essayé de communiquer avec le public autour de la vie de l'ensemble baroque de Toulouse et donc de son émanation, le festival Passe ton bac, je pense qu'un certain nombre des personnes du public peuvent très bien le comprendre. Donc, ce premier sens est dû au fait que, pourquoi le cacher ? Depuis quelques mois, maintenant ça commence à dater un petit peu, puisque nous avons donc franchi cette difficulté. L'ensemble baroque de Toulouse a traversé donc des grosses difficultés. Et vous vous en doutez bien, si on parle de grosses difficultés, nous parlons de grosses difficultés financières, pas artistiques, parce que la fibre, l'élan, l'enthousiasme musical est toujours présent de la part de toute l'équipe, mais des difficultés financières, des, disons-le, baisses de subventions qui ont remis en cause le fonctionnement même de l'ensemble, sa possibilité à continuer à mener ses projets. Juste, je voudrais dire une chose par rapport à ça, c'est très important. La culture en ce moment, évidemment, est amenée, disons, à se serrer la ceinture. Alors c'est une chose que je pense que tous les artistes peuvent comprendre et peuvent accepter, parce qu'on ne peut pas dire voilà, la période est difficile et nous, les artistes, nous devrions échapper sous quel prétexte. Voilà, nous avons quand même les pieds ancrés au sol, nous faisons partie de la société, donc c'est normal que les artistes soient aussi concernés par les difficultés que peut rencontrer une société. Mais juste ce qui s'est produit pour l'ensemble, c'est que l'ensemble baroque de Toulouse, historiquement, est un ensemble qui est peu soutenu. Et que, évidemment, quand on est peu soutenu, la moindre attaque sur les subventions prend des proportions, évidemment, beaucoup plus graves que quand on est très bien soutenu. Et voilà, on a une diminution de subventions, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un spectacle de moins dans l'année, on fait, etc., etc. C'est ce qui explique les difficultés que nous avons traversées. Nous avons surmonté ces difficultés en équipe, c'est-à-dire aussi bien l'équipe administrative que l'équipe artistique, qui ont été, je dois dire, toutes les deux extrêmement engagées à mes côtés pour surmonter cette passe difficile. Et donc, nous repartons avec un nouveau souffle. Et puis le deuxième sens de cette expression, c'est que nous avons souhaité consacrer cette édition aux instruments, au sens large du terme, je vais en reparler dans une seconde, qui sont animés par le souffle humain. Et donc la totalité, je crois que c'est la première fois que ça se produit, la totalité des concerts de cette édition de Passe-ton-Bac verront apparaître sur scène soit un ou des instruments avant, soit l'instrument peut-être royal animé par le souffle, c'est-à-dire c'est l'instrument qui n'a même pas besoin du truchement de clés, d'anches, de biseaux, de quoi que ce soit, la voix humaine. Et donc voilà, la totalité des artistes qui participent à cette édition jouent des instruments avant ou chantent.
Voilà pour le nouveau souffle. Alors la programmation, comme le veut la tradition du festival, est à la fois foisonnante et surprenante, avec cette volonté réaffirmée d'y faire se côtoyer, voire d'y mêler musique classique et musique actuelle. Il y a quelques temps forts tout de même, à commencer par les concerts de l'ensemble baroque de Toulouse, cheville ouvrière et formation principale du festival. Un premier grand rendez-vous, vous allez donner l'intégrale des six motets de Jean-Sébastien Bach à la chapelle de l'Hôtel-Dieu les 1er et 2 juin.
Voilà, alors ça c'est un nouveau défi que nous nous sommes lancés, hein. Je dis un nouveau parce que l'an dernier nous avions relevé un autre défi qui était de donner l'intégrale des six concertos brandebourgeois de Bach. Alors c'est un tout petit peu différent parce que les six concertos brandebourgeois ont été conçus comme une œuvre, on pourrait dire, hein, de la part de Bach, puisque c'était un cadeau donc qu'il a fait en tant que tel, alors que les six motets, c'est juste, il y en a six, d'ailleurs il semblerait que peut-être il y en ait un ou deux autres voilà, qui pourraient rejoindre ce corpus. Nous nous sommes contentés des six et je peux vous dire que ça suffit, parce que ce sont des œuvres donc, qui ont jalonné la vie de Bach, ce sont des œuvres, elles, uniquement consacrées au chœur. C'est-à-dire que ce sont des œuvres dans lesquelles il n'y a pas d'orchestre et dans lesquelles il n'y a pas de soliste vocal. Il y a juste, pour soutenir le chœur, un petit ensemble instrumental qu'on appelle une basse continue, et nous avons souhaité d'ailleurs une basse continue assez fournie. Il y aura donc deux orgues positifs et un violoncelle, un basson et une contrebasse qui vont venir soutenir le chœur. Et ce sont des œuvres absolument exceptionnel. Je pense hein, qu'on peut dire sans exagérer que ça fait partie peut-être des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de la musique, mais ce sont des œuvres assez complexes dans leur forme, c'est-à-dire que Bach y a mis dans une forme assez resserrée, il y en a qui durent 10 minutes, le plus long de ses motets, Jesu meine Freude, peut-être le plus célèbre, dure 20 minutes, donc c'est court. Mais par contre, il y a mis, alors on pourrait dire, en un instant très court, il y a mis la totalité de son génie dans son écriture, et en particulier sur deux plans. Elles sont très souvent animées par un contrepoint, donc cet art de l'écriture rigoureuse, on va dire, qui fait s'empiler les voix les unes au-dessus des autres. Et comme il y a certains de ces motets qui sont écrits pour double chœur à quatre voix, donc parfois huit voix empilées les unes au-dessus des autres, qui chantent chacune une partie différente, donc vous voyez la performance que ça représente. Et sur un deuxième plan, c'est le rapport incroyable entre le texte, qui était évidemment imposé à Bach, et la musique qu'il a écrite qui va devoir venir illustrer ce texte. Et on le sait, ça c'est un art dans lequel Bach a excellé, d'où le titre magnifique de ce livre d'Albert Schweitzer, Bach le musicien poète. Il crée des images saisissantes pour illustrer le texte, et donc on est loin d'une musique purement intellectuelle, c'est une musique effectivement très construite, mais en même temps une musique d'une sensibilité, d'une sensualité, j'ai même envie de dire, absolument exceptionnelle. Un vrai défi, parce que par ailleurs, c'est d'une difficulté
pour la voix,
extrême
très, très
pour le cœur, voilà, hein. Tout à fait, et d'ailleurs pour tout vous dire, nous y sommes depuis quelques mois.
J'imagine, alors vous allez présenter vous-même avec vos interprètes les motets à 14h à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. À 15h, le 1er juin, le samedi, donc, il y aura Jesu meine Freude. À 18h, vous allez enchaîner Der Geist hilft, Fürchte dich nicht et Lobe den Herrn. 1er juin toujours à 18h, chapelle de l'Hôtel-Dieu, et vous terminez le lendemain à midi cette intégrale avec Comme Jésus comme et Singe dem Herrn, le dimanche 2 juin donc à midi à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Vous reprenez Jésus meine Freude, alors c'est pas vous qui allez le diriger, c'est Clotilde Aubert.
Tout à fait.
À Saint-Pierre-des-Cuisines, dimanche 2 juin à 15h. Et pour illustrer ce premier temps fort de l'édition 2024 de Passe ton bac pour l'ensemble baroque de Toulouse, je propose que nous écoutions le motet BWV 225, Singe dem Herrn. C'est une version de la Netherlands Bach Society. Le motet BWV 225, Singe dem Herrn, interprété par les musiciens de la Netherlands Bach Society, pour illustrer l'intégrale des six motets de Bach que donne l'ensemble baroque de Toulouse les 1er et 2 juin à la chapelle de l'Hôtel-Dieu et à Saint-Pierre-des-Cuisines. On a dit que le souffle, c'était bien sûr la voix, mais c'est donc aussi les instruments à vent que vous mettez en lumière à travers les concertos que Bach a composés pour eux. Et bizarrement, si l'on fait exception des concertos brandebourgeois que vous avez donnés entièrement l'année passée, il en a composé assez peu. Trois seulement que vous présentez lors de cette 16e édition, le samedi 1er juin à 21h au couvent des Jacobins.
Oui, et encore trois, il y en a un, le premier qui sera joué, c'est une supposition. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas retrouvé dans la forme sous laquelle nous allons le donner, donc la forme d'un concerto pour hautbois d'amour et orchestre. On a retrouvé cette partition sous forme d'un concerto pour clavecin. Les musicologues, en faisant des enquêtes sur la version qui nous est parvenue, ils en sont arrivés à l'idée que cette version n'était pas la première version, que c'était une transcription qu'on a faite Bach pour pouvoir la donner plus facilement, puisqu'évidemment dans la famille Bach, il y avait beaucoup plus de monde qui jouait d'un instrument à clavier, le clavecin, que du hautbois d'amour. Et donc, on sait qu'il y a eu une première version et on a des suppositions qui nous font penser que donc voilà. Alors ce qui est étonnant dans cette histoire de concerto pour instruments à vent, c'est que Jean-Sébastien Bach adorait les instruments à vent. Oui. Par exemple avec ses cantates, où le hautbois, la flûte, même les instruments à cuivre, les trompettes, les cors sont mis en valeur d'une manière absolument incroyable. Et bizarrement, effectivement, il ne leur a pas consacré énormément de concertos. Donc nous entendrons ce concerto pour hautbois d'amour. Le hautbois d'amour est donc un hautbois au son adouci par une sorte de bulbe qui se trouve au bout de l'instrument et qui fait que le son, au lieu de sortir direct, puisqu'il faut savoir que le hautbois était au départ un instrument pour être joué en extérieur, hein, c'est un instrument un peu de fête et de cérémonie, il garde quand même toujours ce côté un peu perçant, alors que le hautbois d'amour est un instrument, dirait, du velours. Nous terminerons avec alors une œuvre qui est vraiment célèbre, oui. Peut-être une des pièces concertantes de Bach les plus célèbres, le double concerto pour hautbois et violon, et au milieu, une œuvre, alors on pourrait dire, quasiment jamais donnée. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un triple concerto, comme celui de Beethoven, mais celui-là, il est composé pour flûte, violon et clavecin. Et donc ces trois concertos feront l'objet de ce concert du samedi soir au Jacobin.
Alors le concerto pour hautbois d'amour de Bach est lui aussi rarement donné en concert. C'est une bonne raison de vous le faire écouter, d'autant plus que j'en ai un extrait enregistré par l'ensemble baroque de Toulouse avec l'oboïste Xavier Miquel. Le concerto pour hautbois d'amour BWV 1055 de Bach dans une version de l'ensemble baroque de Toulouse avec Xavier Miquel en soliste. Vous allez retrouver les mêmes samedi 1er juin à 21h au couvent des Jacobins lors du concert dédié au concerto pour instruments à vent composé par Jean-Sébastien Bach. On revient à la voix avec la cantate BWV 204 programmée le samedi 1er juin à 19h également au couvent des Jacobins puis le lendemain, dimanche 2 juin à 11h à la chapelle de l'Hôtel Dieu. C'est une cantate pour soprano soliste qui, semble-t-il, a été choisie par une chanteuse qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup à Toulouse, Clémence Garcia, Michel.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons souhaité pour cette édition travailler avec la troupe d'une certaine manière. Alors en général, quand on forme un ensemble instrumental comme le nôtre, l'ensemble baroque de Toulouse, ben, les instrumentistes peuvent être plus ou moins fidèles, on va dire. Vous savez qu'il y a un double fonctionnement. Il peut y avoir un fonctionnement vraiment d'un orchestre constitué d'une manière régulière ou alors un fonctionnement, ce qu'on appelle entre nous, par cache-tonneur. C'est-à-dire on fait venir pour telle opération tel musicien, on en invite d'autres, des intermittents qui rejoignent la formation. À l'ensemble baroque, on a cette fidélité avec les musiciens, mais on a aussi l'esprit de troupe avec les chanteurs et surtout les chanteuses d'ailleurs. Donc nous avons deux chanteuses très très fidèles à nos productions, Clémence Garcia en soprano et Caroline Champy-Tursun en alto ou mezzo-soprano. Et donc nous les avons invitées toutes les deux pour cette édition. J'ai proposé à Clémence de dire quelle œuvre elle aimerait chanter avec nous. L'idée au départ était plutôt de faire un récital d'aria pour soprano et orchestre, extrait d'aria, extrait de différentes œuvres de Bach. Et puis elle m'a dit non, moi je préférerais jouer une cantate constituée. Alors il y a peut-être des personnes qui peuvent se dire, je vois pas tellement l'intérêt puisqu'il y a cantate sans filet, donc on sera amené un jour à l'entendre et en plus gratuitement. Eh bien non, parce qu'à partir de 200, les cantates ne sont plus les cantates religieuses, mais sont les cantates profanes de Jean-Sébastien Bach, qui sont d'ailleurs un corpus beaucoup, beaucoup moins connu que les cantates religieuses. Et c'est bien dommage, ces cantates profanes sont des mini-opéras et il a été alors dans des directions absolument opposées, des œuvres très imposantes, très majestueuses pour grand orchestre et tout. Et puis il a aussi composé dans ce corpus d'œuvres la cantate des paysans par exemple, qui est une sorte de pochade dans laquelle on peut chanter « Je voudrais moins de soupe aux choux et un petit peu plus de lard », enfin des choses comme ça si vous voulez. Donc on voit qu'on est loin des cantates religieuses et qu'on est dans un esprit parfois ludique dans ces cantates profanes. Voilà, et là c'est une œuvre vraiment alors où la virtuosité, on sait que Clémence Garcia a une virtuosité vocale exceptionnelle et donc dans laquelle
beaucoup de souplesse dans la voix, pour celle-ci. Hein. Alors le titre, c'est Ich bin in mir vernugt, C'est-à-dire, je me contente de mon sort. Je crois qu'on l'appelle aussi cantate du contentement.
Oui, voilà. Alors, je vais être honnête, très souvent dans les cantates profanes, l'argumentaire est très faible. Et là, cette cantate, elle, c'est « il vaut mieux se contenter de son sort, renoncer aux ambitions excessives, vouloir trop de biens de consommation de tous les jours, au bénéfice de la paix de l'âme et de la tranquillité ». Et c'est très beau en même temps, parce que, effectivement, c'est une belle maxime hein, pour donner une certaine forme de sagesse dans nos vies.
Pour vous faire découvrir cette cantate BWV 204 de Bach, nous allons écouter l'aria Ruhig und in sich zufrieden. Il s'agit d'une version dirigée par Ton Koopman. Ruhig und in sich zufrieden, extrait de la cantate BWV 204 de Bach dirigée par Ton Koopman, une œuvre à découvrir en concert avec l'ensemble Baroque et Clémence Garcia le samedi 1er juin à 19h au couvent des Jacobins et le dimanche 2 juin à 11h à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Durant ce festival, vous reprenez aussi avec l'ensemble Baroque un programme qui avait connu un immense succès lors de la clôture du festival 2022 Back to Africa, samedi 1er juin à 16h à la salle des pèlerins de l'Hôtel Dieu, puis au même endroit dimanche 2 juin à 14h, mais à la chapelle. En revanche, c'est un format raccourci par rapport à il y a 2 ans.
Vous avez dit reprenez, on ne le reprend pas, c'est un prolongement. Au cours de cette création montée pour la clôture de Passe-ton-Bac, effectivement, il y a 2 ans, il y avait eu de multiples rencontres exceptionnelles, on peut dire, ne serait-ce qu'entre la musique de Bach et la musique traditionnelle africaine, hein, d'origine ivoirienne et malienne, essentiellement. Et il y a eu parmi ces rencontres une rencontre incroyable entre Caroline Champy-Tursun, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, notre alto maison, si je puis dire, et Fanta, cette chanteuse traditionnelle d'origine malienne, donc, qui avait participé à ce programme. Une rencontre absolument magique, autour en particulier d'un air de Bach qui s'appelle Air Barmedi, donc qui est cet air de la Saint-Mathieu, au moment où Pierre demande voilà, pitié de sa trahison, de son renoncement. Cette rencontre, nous avons voulu la prolonger. Et alors là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce qu'il y a le même procédé, on pourrait dire, que dans Back to Africa, c'est-à-dire de la musique de Bach dans laquelle va intervenir Fanta, mais également, je voulais que le pas soit fait dans l'autre sens. Et donc, j'ai demandé à Fanta de nous donner une chanson traditionnelle africaine. Elle a composé en réalité une chanson. Alors cette chanson en plus est sur des paroles qui sont très fortes puisque c'est une chanson qui parle de l'excision, de ce scandale qui perdure dans certains pays d'Afrique. Elle a composé cette chanson et j'ai demandé à la personne qui va diriger ce concert, qui est Claire Suhubiette, de faire un arrangement pour orchestre baroque. Et elle a fait quelque chose d'absolument exceptionnel parce qu'elle a intégré des extraits d'œuvres de Bach dans l'accompagnement de cette chanson traditionnelle. Donc là, c'est un des chemins de rencontre entre ces deux musiques, voilà, et ces deux personnalités.
Pour rappel et pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, un petit mix d'extraits du programme Back to Africa d'il y a 2 ans.
Bye. Galela, Dunia Linka Gele, Uri,
Dunia Linka Gele,
Dunia Barala, Barala.
Voilà, un magnifique extrait de Back to Africa en fondu enchaîné, tel qu'on avait pu l'entendre il y a 2 ans à la Lograin, mais c'est donc une autre version de ce programme qui est proposé par l'ensemble baroque à l'Hôtel-Dieu sous la direction de Claire Subiette, samedi 1er juin à 16h à la salle des Pèlerins et dimanche 2 juin à 14h à la Chapelle. Dernière apparition de l'ensemble baroque de Toulouse, dimanche 2 juin à 18h30 au Métronome, à cette magnifique salle de musique actuelle du Métronome, pour le concert de clôture du Festival 2024 avec le programme, alors c'est pas Back l'Africain, là c'est Back l'Espagne. Espagnol. À première vue, le lien entre Bach et l'Espagne paraît extrêmement ténu. Expliquez-nous ça.
Alors, il est pourtant bien réel, puisque on sait que la musique baroque s'est beaucoup inspirée des danses. Il y a même un musicologue savant italien qui a attribué à chaque mouvement de cantate de Jean-Sébastien Bach une danse. Alors, une danse de l'époque, une bourrée, une gavotte, un menuet, une sarabande, etc. Et certaines de ces danses, avant d'arriver dans les salons et dans les églises, donc de l'époque baroque, avaient connu une vie en tant que danse populaire. Alors, la plus célèbre d'entre elles, c'est la chaconne ou passacaille. Tous les compositeurs baroques, alors qui ne connaît pas évidemment la grande chaconne pour violon seul de Bach, la passacaille, une des passacailles la plus connue pour orgue, qu'il a composée également. La passacaille, en français, vient de passa la calle, c'est-à-dire un mot espagnol qui dit c'est une danse de rue, vraiment populaire, avec des aspects rituels, etc. Puisque très souvent, ces danses-là, pas toutes, hein, je ne parle pas des bourrées, des gavottes que j'ai évoquées, mais la passacaille et la chaconne sont sur une formule répétitive, disons, qui crée une certaine forme de transe. Et parmi ces danses, eh bien, il y en a une qui s'appelle la folia, qu'en France, on a appelée à l'époque la folie d'Espagne. Et Jean-Sébastien Bach, figurez-vous, a composé également une folia. Il a intégré cette folia à une de ses cantates profanes dont je parlais tout à l'heure, la cantate des paysans. Et donc, nous avons créé un partenariat que je trouve extraordinaire pour ma part avec le festival Rio Loco. Et le festival Rio Loco, cette année, sa thématique, c'est la musique des rives de la Méditerranée. Et donc, nous avons, en collaboration, en partenariat avec eux, monté ce programme dans lequel sera joué, bien sûr, la folia de Bach, mais d'autres folias de l'époque, Lully, Vivaldi, Geminiani, etc. Mais, comme nous sommes avec Rio Loco, nous avons invité, pour nous rejoindre et apporter un peu de folie à ces folias, nous avons invité 3 musiciens de musique actuelle pour venir improviser, délirer, faire partir un petit peu ce programme de folie dans le décor. Donc ces 3 musiciens sont le guitariste flamenco bien connu des Toulousains Serge Lopez, un saxophoniste de jazz lui aussi bien connu qui a créé un ensemble qui s'appelle Initiative H, David Audrechy, et alors un accordéoniste qui est sur toutes les scènes, qui joue avec plein d'ensembles, dont des ensembles classiques comme les Sacs Boutiers, qui s'appelle Grégory Daltin. Et ces 3 musiciens nous rejoindront sur la scène du Métronome pour rendre ces folies effectivement délirantes.
3 grands dans leur domaine. Alors, pour essayer de donner une idée de ce programme à nos auditeurs, nous allons justement écouter la folia de la cantate BWV 212, la cantate des paysans. C'est une version d'un ensemble espagnol dirigé par Leonardo García Alarcón.
Oh,
La folia de la cantate BWV 212 de Bach. Alors je précise qu'il n'y aura que les instruments. Hein,
voilà,
pour celle que vous allez donner, il n'y aura pas de voix, mais ça sera magnifique tout de même. Donc ici, version dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. Voilà donc pour les concerts que donne l'ensemble baroque de Toulouse lors de Passe-ton-Bac 2024. Il y a bien sûr beaucoup d'autres concerts dans la programmation de la 16e édition. Quels sont ceux que vous tenez particulièrement à mettre en avant, Michel? Peut-être en premier le concert d'ouverture, vendredi 31 mai à 20h30, donné à l'église Saint-Exupère par l'ensemble Amaryllis, fondée et dirigée par la flûtiste à bec Héloïse Gaillard.
Voilà, alors arrive le moment de torture pour moi, c'est-à-dire en tant que directeur artistique et programmateur de ce festival, co-programmateur de ce festival avec mon ami Joël Sorin pour la musique, les musiques actuelles. Voilà. Arrive mon moment de torture parce qu'il me faut choisir parmi la profusion de propositions qu'il y a pendant ce week-end. Mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence ce concert d'Amaryllis. Amaryllis est donc un des jeunes, enfin relativement jeune, il n'est pas tout jeune, mais ensemble français, des meilleurs ensemble baroque français, et ils viennent nous proposer un programme de musique de chambre autour des instruments à vent, évidemment, pour correspondre à la thématique de cette année, d'œuvres de Bach, bien sûr, mais aussi de ses contemporains beaucoup moins connus. Et si vous n'avez jamais entendu parler de Monsieur Fasch, de Monsieur Heinichen ou de Monsieur Zelenka, c'est l'occasion de les découvrir. Alors, c'était des compositeurs du temps, donc ils écrivaient de la musique souvent à la demande, et donc il y a des œuvres, on va dire, de bon niveau. Et puis, il y a quelques œuvres qui ressortent complètement, qui sont complètement géniales de ces compositeurs. Il faut savoir, par exemple, que Bach est tombé amoureux de la musique de Zelenka, qui opérait à Dresde, et qu'il a dirigé lui-même des œuvres de Zelenka. C'est-à-dire qu'il estimait que c'était de la musique qui méritait d'être comparée à la sienne, d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est ce concert qui vous est proposé, flûte à bec et au bois, puisque Héloïse Gaillard joue les deux instruments, avec son ensemble de chambres.
Héloïse Gaillard, la sœur de la violoncelliste Ophélie Gaillard. Alors, je ne vais pas parler des autres propositions. Est-ce qu'il y en a une complètement insolite, que vous avez le secret pour nous en proposer à chaque année?
Alors, peut-être une qui sort de l'ordinaire, effectivement, c'est un concert qui verra mis côte à côte la musique de Bach et des textes de Christian Bobin. Donc Christian Bobin, ce grand écrivain français qui est décédé il y a quelques mois, qui aimait beaucoup Bach et qui a la proximité avec Bach d'avoir effectué une recherche spirituelle tout au long de sa vie, dont ses livres sont l'écho. Et donc, cette confrontation entre Bach et Bobin, à mon avis, promet beaucoup.
Christian Bobin, dont le pianiste favori était Grigori Sokolov. Alors, il y a beaucoup d'autres choses encore, on ne peut pas tout détailler. On va écouter l'ensemble Amaryllis pour conclure cette présentation de Passe ton bac d'abord 2024. Nous avons parlé tout à l'heure du fameux concerto pour hautbois et violon BWV 1060A de Jean-Sébastien Bach. Et bien voici la très belle version qu'on a enregistrée, l'ensemble Amaryllis.